résistance et mémoire. Les jeunes d'Hirsois à la recherche de leurs histoires.
Bonjour, nous sommes Alexia et Victor. Lors d'une balade en Toulouse, accompagnés de l'historienne Elrika Leroy, nous avons visité plusieurs lieux liés à la résistance dans la région toulousaine.
Nous sommes notamment allés voir le siège de la Gestapo, le buste de François Verdier, le mémorial de la résistance et la prison Saint-Michel.
L'opération de minuit, elle va avoir lieu parce que la résistance multiplie des actions retentissantes à Toulouse et dans la région. L'une des actions qui va susciter l'intérêt de la police allemande à Paris, parce que l'opération de minuit, elle est organisée par la Gestapo de Paris, c'est l'exécution de l'avocat général Lespinasse. Alors cet homme, donc le procureur, ce qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de procureur, a demandé la peine de mort contre Marcel Langer. Marcel Langer, c'est un Polonais communiste juif qui va organiser une brigade qui va mener une guérilla urbaine. Marcel Langer va organiser les premières actions armées à Toulouse. Dès novembre 1942, il fait exploser des camions allemands, des pylônes, des voies de chemin de fer. Et puis, rapidement, à partir de début 1943, il va organiser les exécutions de miliciens. Et il est arrêté à la gare Saint-Agne, une petite gare de Toulouse, parce qu'à l'époque, dans la résistance, il n'y a pas grand monde. Et donc, le chef de la brigade doit lui-même aller récupérer une valise pleine d'explosifs. Un policier français l'arrête. Et donc, le procureur Lespinasse, l'avocat général, va demander sa tête parce qu'il est communiste, juif et étranger. Donc, pour simple transport d'explosifs, cet homme va être guillotiné à la prison Saint-Michel. On va y aller tout à l'heure. Et sa brigade, ses camarades qui sont très jeunes, vont le venger le 11 octobre 1943, soit 2 mois avant l'opération de minuit, le déclenchement de l'opération de minuit, juste à cet endroit. Là, les femmes de la brigade Marcel Langer, donc des étrangers tous, hein, polonais, roumains, espagnols, italiens, quelques français, vont surveiller les habitudes du procureur. Et alors qu'il se rend à la messe le 11 octobre au matin, il est exécuté par un jeune de la brigade qui vient à bicyclette. Voilà, c'est juste là. Et ça, ces actions de résistance, derrière le musée, là, on ne va pas y aller, mais une autre exécution retentissante va avoir lieu contre le chef de la police française, l'intendant régional de police, Barthelet, qui, lui, va être mitraillé par les résistants du réseau Morange, le 23 octobre. Vous voyez, 11 octobre, ici, Lespinasse est exécuté. Dès lors, plus aucun magistrat ne réclamera la mort contre un résistant à Toulouse. La BBC à Londres, la radio Londres, diffusera cette exécution en guise de menace contre les juges qui viendraient à prononcer des sanctions trop sévères contre la résistance. Ça va vraiment avoir un rôle efficace. Et puis cet intendant régional de police exécuté devant chez lui à la mitraillette par le réseau Morange le 23 octobre. Et donc, le 13 décembre, le déclenchement de l'opération de minuit, on va l'évoquer devant le siège de la Gestapo, on va marcher 500 mètres à peu près. En fait, on est devant la villa, alors que les habitants du quartier appellent le petit château. La villa qui a été louée par les services du ZIPO-SD, Sicherheitspolizei, qu'on appelle Gestapo plus couramment. Et c'est ici, et ensuite Saint-Michel, où seront amenés et torturés la majorité des résistants, mais des juifs également, arrêtés à Toulouse et dans la région. Si on était arrêté par exemple à Hoche, Hoche dépendait du siège de la Gestapo qui se trouvait ici. Donc un détenu était tout le temps amené ici. Les juifs, c'est pareil, on voulait leur faire parler de l'endroit où étaient cachés leurs biens. Je vais vous donner l'exemple de Marie, qui a été arrêtée en juillet 1944, elle avait 14 ans. Marie, elle s'appelait Marie Rafalovitch, elle était née à Toulouse, elle savait même pas qu'elle était juive, mais avec les lois antisémites du régime de Vichy et la persécution nazie contre les juifs, elle est arrêtée. Elle est amenée ici, comme elle est arrêtée seule, après avoir été dénoncée par son voisin, Elle va être amenée ici, frappée, pour faire dire où sont cachés son frère et ses parents. Elle ne dira rien et elle sera déportée à 14 ans, toute seule, à Ravensbrück et Bergen-Belsen. Le camp de Bergen-Belsen, c'est un camp qui est connu notamment par Anne Frank, mais c'est là aussi où a été libérée Simone Veil. Donc ici, on torturait sans scrupule. Dans le cadre de l'opération de minuit, on y reviendra un petit peu plus tard devant son buste, le premier résistant arrêté dans l'opération de minuit, le 13 décembre 1944, c'est François Verdier, le chef régional, donc ça concerne aussi le Gers, ça concerne tous les départements de l'ancienne Midi-Pyrénées, on va dire, plus le Lot et Garonne et une partie des Pyrénées-Atlantiques actuelles. Et donc lui, il est arrêté à 22h, il est amené ici et il va être questionné immédiatement. Si on prend le cas des jeunes maquisards de Pont-Saint-Père, dans les jours qui précèdent la rafle, un des jeunes est arrêté lors d'une mission à Toulouse. Lucien Pyrus est agent de liaison pour le maquis de Pont-Saint-Père et il est en mission à Toulouse. Et il est arrêté quelques jours avant la rafle. Il est amené ici, il est interrogé. Lucien Pyrus ne dit rien, mais il semble qu'un document trouvé dans la poche d'un des résistants, c'est fréquent ça. Un lieu de rendez-vous, un nom... Malheureusement, on disait souvent pour les règles de prudence de la clandestinité. La clandestinité, c'est se cacher. Et une des règles de prudence de la clandestinité, c'est de ne rien écrire. On disait toujours aux résistants d'apprendre par cœur les missions. Et pour un agent de liaison, c'était apprendre sa mission par cœur et ne pas l'avoir sur un papier, ni une adresse, ni un nom. Là, il semble qu'un papier ait été trouvé dans la poche d'un des maquisards arrêtés, ce qui explique que la Gestapo se soit rendue à l'aube du 14 décembre près de Mirande, au château de Cour, où vous étiez, on pourra en reparler après, où vous étiez la semaine dernière. Donc c'est ici qu'il est torturé. En général, les résistants étaient amenés au premier étage, interrogés par un officier avec un interprète qui parlait français. Et ensuite, ils étaient descendus dans les caves. En fait, il fallait créer le stress, l'angoisse. Donc il y avait dans les caves, ils étaient dans l'obscurité, dans des toutes petites pièces, où évidemment ils n'avaient pas à manger, ils n'avaient pas à boire, ils ne pouvaient pas non plus aller aux toilettes. Enfin, on les laisse dans une terreur et une angoisse et ensuite on les fait remonter au premier étage. Pour les maquisards de Pont-Saint-Père, il semble qu'ils soient restés davantage à la prison Saint-Michel. On en reparlera quand on sera devant la prison Saint-Michel. Mais ici, c'est vraiment le lieu de torture. Et le premier résistant qui va être torturé à mort, ici, ça arrive donc... Tout à l'heure, quand je vous ai parlé de l'exécution du procureur, ça arrive au même moment. C'est un résistant socialiste, un homme qui était facteur et qui ouvrait les courriers destinés à la Gestapo, qui avait aussi des codes sur lui de liaison avec Londres. Il avait une radio avec Londres. Lui, il va être torturé à mort et son cadavre laissé sur le trottoir. C'est le premier résistant, il s'appelle Lucien Béret. On va traverser, vous allez aller voir la plaque et vous chercherez bien l'endroit où est écrit « Ancien siège de la Gestapo ». C'est une mission. Ça courait jusque... Là, vous êtes au numéro 2. Ça court jusqu'au numéro 15 en face et sur 50 mètres, quoi. Ou 30 mètres. Dans le jardin de la Gestapo, à la Libération, on a retrouvé des corps. Donc derrière vous, il est mention de 5 corps, enfin 5 personnes assassinées ici. En fait, il y en a bien plus. Les tortures employées ici vont jusqu'à, par exemple, un résistant, un chef de réseau d'évasion qui s'appelait Albert Guéris, Patoléry, qui s'occupait de faire évader les pilotes alliés à travers les Pyrénées. Témoigne en 1953, lorsque la Gestapo est jugée à Bordeaux, qu'il a été torturé, enfermé des heures dans un frigo. La torture la plus répandue, celle qu'a connue François Verdier, Pyrus et bien d'autres, c'est d'être attaché les mains dans le dos, pendu au dernier étage, il y avait une poutre, pendu au dernier étage pendant des heures et frappé. En général, le résistant tombait dans les pommes. Et ça pouvait durer des heures. Le supplice de la baignoire, peut-être que vous connaissez. Et ça, ces supplices-là étaient identiques pour les hommes et pour les femmes. Enfin, on pourrait faire la liste très précise de toutes les tortures employées ici. À partir de novembre 1942, dans ce quartier, plus aucun Français ne parle, ne passe par ici. Aucun Français non autorisé ou non salarié de la Gestapo n'entre dans cette ville-là. La Gestapo n'était pas nombreuse. On compte à Toulouse 168 agents de la Gestapo en 1943. 168 agents de la Gestapo, c'est pour couvrir l'ensemble de la région. Donc, autant vous dire qu'ils ont besoin de main-d'œuvre. Et les Français qui vont travailler pour eux seront logés dans les villas autour d'ici. Et notamment, derrière moi, ce qui s'appelait l'Hôtel Family. Donc, c'est des Français qui vont être salariés de la Gestapo, qui vont porter l'uniforme allemand et qui vont, comme eux connaissent bien le terrain, ils connaissent la langue et ils vont dire bah, « Celui-là, je me souviens qu'avant-guerre, il avait des opinions un peu communistes. » Faudrait voir à le surveiller, faudrait. Voilà. Et beaucoup d'arrestations et de crimes vont être commis par ces Français qui ont travaillé pour la police allemande. Là, vous voyez, devant, il n'y a aucune mention de ce qu'était cette ville-là. Les cinq noms. Donc, Lucien Béret, c'est celui, le premier résistant torturé à mort. Il n'a pas été retrouvé dans le jardin, puisqu'il a été placé devant. Mais bien d'autres, par exemple, ne figure pas ici Marcel Taillandier, qu'on va retrouver dans le jardin avec son camarade policier Léo Hamard. En fait, la souffrance des résistances, ici, c'est vraiment le lieu de souffrance de la résistance. Et c'est une maison, c'est une propriété privée aujourd'hui, divisée en appartements. Et donc, il reste juste cette plaque que les propriétaires auraient bien aimé voir déboulonner. Alors François Verdier, la Gestapo sait que c'est le chef de la résistance. À Paris, quand ils ont donné l'ordre de cette opération, ils ont dit « il faut arrêter Verdier ». Donc Verdier, quand il est arrêté, il est amené ici et lui, il fait comme s'il ne comprenait pas ce qu'il veut. Ouais, « je suis chef d'entreprise, je vends des tracteurs, je ne vois pas ce que vous me voulez ». Et il va garder cette attitude-là, « je vends des tracteurs, je ne vois pas de quoi vous me parlez ». Et donc les Allemands, comme ils savent que c'est le chef de la résistance, ils vont s'acharner. Donc lui, Verdier, il va faire des allers-retours pendant à peu près 15 jours entre le sous-sol, les caves et le premier étage. Ensuite, la Gestapo va l'envoyer à la prison Saint-Michel, d'abord dans une cellule tout seul, puis après il le mettre avec d'autres, vous savez, dans l'espoir que Verdier parle. Et il y a un espion de la Gestapo qui est parmi les prisonniers, on appelle ça un mouton, mais il ne parle pas. Puis ensuite, il est ramené encore ici. Et comme il ne parle pas, on sait par les témoignages d'un interprète allemand qui était présent dans cette ville-là, on sait que les Allemands ont utilisé ils ont fait appel à un médecin militaire qui a injecté à François Verdier un produit, alors on ne sait pas lequel, ça c'est pas précisé, pour le faire parler dans son sommeil. Mais il ne parle pas plus puisque aucune arrestation n'a suivi celle de François Verdier. Et puis le 27 décembre, on sait que le 26 décembre, François Verdier est à la prison Saint-Michel, on le sait parce qu'il a écrit un petit carnet où il écrivait des mots, c'est que de l'intimité, c'est que des mots pour sa femme et sa fille. Et on sait que le 26 décembre, il est à Saint-Michel, le 27, il aurait dû être déporté. Mais au lieu d'être déporté, il est sorti par deux agents de la Gestapo allemand, ceux-là même qui l'ont torturé et arrêté. Il est conduit en forêt de Boucone. On ne sait pas pourquoi, parce qu'on n'a pas les archives allemandes. Il y a un mystère quand même. Et là, en forêt de Boucone, Verdier va être abattu avec un pistolet américain. Et ensuite, une fois mort, les Allemands vont placer une grenade à côté de son visage, une grenade française. On sait parce qu'on a retrouvé les morceaux de grenade. Et le défigurer. Et les Allemands, quand ils reviennent ici, ils s'en veulent de ne pas avoir vidé les poches de François Verdier parce qu'il ne voulait pas qu'on l'identifie tout de suite. Or, dans sa poche, il avait le petit carnet, les petites lettres écrites, donc on va l'identifier immédiatement. Parce que la détonation de la grenade, déjà, éveille l'intérêt des gens autour et on retrouve son corps immédiatement. Et donc, le petit mot va faire identifier. S'ils ont utilisé une grenade française et un pistolet américain, c'est qu'ils voulaient semer le trouble, ils voulaient faire croire que dans la résistance, on ne s'entendait pas, qu'on ne s'entendait pas avec les alliés. Donc, faire croire que François Verdier avait été tué par la résistance.
prudent.
Donc là, actuellement, on est devant ce qu'on appelle la cour d'honneur de la prison Saint-Michel dans son entier. Si on avait pu rentrer, on serait rentré donc dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Castellet, qui a été classé parce que la prison Saint-Michel a été menacée de destruction. Vous savez qu'à Toulouse, on manque d'habitations et que les promoteurs immobiliers regardent avec un grand intérêt toute la surface de la prison Saint-Michel, qu'on a longée là en venant, on va en faire le tour. Et la prison Saint-Michel, cette prison en étoile qu'on appelle modèle philadelphien, qui a été construite au 19e siècle. Elle n'est pas vieille, cette prison. Et elle a été construite sur un cimetière du Moyen-Âge. Donc, il est arrivé dans les années 70 qu'un détenu, elle a servi jusqu'au début des années 2000. Hein. Aujourd'hui, les prisonniers ont été transférés à Muret et à Seyss. Mais un détenu, dans les années 70, a tenté de s'évader en creusant un tunnel et il est tombé sur des squelettes. Et des familles de résistants qui cherchaient leurs parents qui ont été assassinés, leur père qui a été assassiné pendant la guerre, ont ensuite cru que des gens avaient été tués ici et enterrés. En fait, les recherches ont montré que non, et que la présence de ce cimetière explique les squelettes. Des résistants ont bien été tués dans cette prison. Vous avez quelques noms, mais ils n'y sont pas tous. Là, ici, vous avez devant vous donc Marcel Langer, dont je vous parlais au début de la visite, qui a été condamné à mort parce qu'il transportait une valise d'explosifs, guillotiné ici dans la cour. Et puis ensuite, ceux qui ont été fusillés parce que résistants, ce sont tous des communistes, et un Espagnol et un Italien, Enzo Godeas et Diego Rodriguez Rolado. Eux, ils ont été condamnés à mort et fusillés par les Français. Mais tous ceux qui ont été fusillés dans cette prison Saint-Michel par les Allemands n'y figurent pas. Alors cette prison, elle était divisée en deux, une rotonde au milieu et cinq ailes. Trois des ailes étaient réservées aux Allemands et aucun Français ne voulait se mêler de ce qui se passait côté allemand. Et les Allemands, quand ils sont partis au moment de la libération, ils ont brûlé toutes leurs archives. Donc on n'a rien. Et les deux ailes qui restaient étaient gérées par les Français. Donc là, on a les archives. Et par exemple, les maquisards de Pont-Saint-Père, quand ils vont arriver du Gers, ils vont directement être amenés ici, côté allemand. Donc on ne sait pas ce qui leur est arrivé jusqu'au moment de leur déportation, puisque tous, sauf Pyrrhus, sont partis dans le même convoi de déportation. Et certains se sont évadés du convoi de déportation. Je ne sais pas si vous avez pu les rencontrer. Mais tous sont partis dans le convoi du 27 janvier 1944, depuis Paris, Compiègne, donc ils sont partis d'ici sans doute début janvier, envoyés, transférés à Compiègne, et de Compiègne, transférés au camp de Buchenwald, puis pour certains, au camp de Dora. Voilà. Mais dans cette prison, la Gestapo et notamment le commandement militaire allemand, donc qui s'occupait de l'armée régulière, la Wehrmacht, ne tolérait pas trop les tortures dans l'enceinte de la prison. Donc on sortait les détenus pour les amener devant au siège de la Gestapo où on était tout à l'heure. Mais comme je vous le disais, on n'a aucune archive allemande, donc je ne peux pas vous dire grand-chose. Toujours est-il que le tribunal militaire allemand a quand même fusillé à l'issue d'un procès. Le procès, c'était rapide, hein. Il n'y avait pas d'avocat pour ceux qui étaient jugés. Là, en tout cas, l'avocat ne parlait pas. Il y avait trois juges allemands qui circulaient dans toute la zone sud, qui venaient de Lyon. Et dès qu'ils arrivaient dans la salle, la sanction était immédiatement définie. Il n'y avait pas de défense, il n'y avait rien du tout. Ils étaient condamnés à mort. Et 27 furent fusillés dans l'enceinte de la prison Saint-Michel. Leurs corps ont été conduits dans le terrain de Bordelongue. C'est 3-4 km d'ici, enterrés discrètement, voilà. Et on les a retrouvés à la libération. C'est pour ça que leurs noms ne figurent pas ici, parce que leurs corps n'ont pas été retrouvés ici. Mais ils ont bien été fusillés dans l'enceinte de la prison Saint-Michel. Et puis d'autres, comme François Verdier, qu'on torturait, qu'on enfermait ici et qu'on allait exécuter en forêt. Et là, on abandonnait les corps en forêt. Et ça, cette technique-là expéditive va s'accentuer après le débarquement en Normandie. À partir du 6 juin 1944, on ne fait plus de détails. Si on ne peut pas déporter, on exécute. Si on ne peut pas être discret, tant pis, on laisse sur place, on demande aux pompes funèbres de venir récupérer les corps. C'est ce qui va se passer pour 5 jeunes de 17 à 20 ans qui vont être exécutés comme ça dans une maison le 28 juin 1944. On demandera aux pompes funèbres et à la police française de venir nettoyer. Il n'y a plus de détails. Mais là, pour l'affaire qui nous préoccupe, on est en décembre 1943, décembre, et donc on déporte encore massivement. Et donc tous ceux de l'opération de minuit, y compris les maquisards de Pont-Saint-Père, partent dans le même convoi du 27 janvier 1944 à Buchenwald. 27 janvier 1944, c'est la date d'exécution de François Verdier.
Nous y allons, on va faire le tour de la prison pour en voir l'étendue. On y va.
L'interview que vous venez d'écouter a été réalisée par des élèves de terminale STMG du lycée Pardaillan à Auch dans le Gers, dans le cadre de la réalisation d'un reportage sur l'opération de minuit. Ce projet autour de la transmission de la mémoire a été accompagné par Sophia Marchesin et Sophie Perroiguet, les journalistes de l'association La Chance, avec Alexandra Joss de Média Commun à la réalisation, sous l'égide de leurs professeurs, messieurs Duteil, Guy et Néré, qui ont accompagné le projet tout au long de l'année. L'ensemble des élèves tiennent à remercier toutes les personnes qui ont accepté de témoigner dans le cadre de ce projet. Cette émission est placée sous licence Creative Commons 4.0, paternité, pas de modification, pas d'utilisation commerciale.